Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil. Santé, prévoyance, auto, habitation.
J'imagine que tout le monde aujourd'hui est satisfait. En tout cas, le maire, lui, il est satisfait que vous ayez pris une décision, satisfait que vous ayez confié la présidence du club à une personnalité qui est très appréciée aussi. Et dès lors, nous nous tournons vers vous. Il va falloir gagner. Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. Voilà, en tout cas, c'est ce que nous vous demandons.
Bonsoir à tous. On a beau être milliardaire, pouvoir s'acheter ce que l'on veut, il n'empêche qu'on peut aussi avoir quelques soucis, parfois. Des investissements qui vous font pousser des cheveux blancs. En misant sur l'Olympique de Marseille, Franck McCourt a goûté à quelque chose de différent. Il faut dire que quand on est originaire de Boston et qu'on se lance dans un projet à plus de 6000 km de là, forcément on s'expose à la découverte d'une autre culture, d'une autre manière de faire et de voir les choses. Arrivé en 2016 avec des idées, des projets plein la tête, mais également un portefeuille bien rempli. Franck McCourt se rend aujourd'hui à l'évidence. Faire gagner l'Olympique de Marseille n'est pas une mince affaire et surtout commence à coûter cher, très cher. 10 ans plus tard et après avoir investi plus de 700 millions d'euros, toujours aucun trophée et son fameux Champions Project a pris un sacré coup de vieux. La valse des entraîneurs n'y change rien. Tous s'y cassent les dents. Pourtant, tous veulent essayer d'y arriver. Car ils le savent, la gloire éternelle attend celui qui parviendra à ramener à ce club dépourvu de titres depuis 14 ans la moindre petite coupe. On fait le bilan 10 ans après son arrivée de l'ère McCourt ce soir avec nos invités, Ossine et Camille. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous, ravi de vous avoir pour cette avant-dernière de Virage Marseille de la saison. Parce que ce vendredi, ce sera la dernière et puis après, forcément, vu que la saison est terminée, eh bien, on calmera aussi le jeu. On reviendra de temps en temps pour les grosses annonces. On fera des émissions un peu spéciales en cas d'arrivée, de signature officielle. On pense notamment au directeur sportif qui devrait arriver à l'Olympique de Marseille. Si oui ou non, Habib Bey est maintenu. Tout cela fera l'objet d'éditions spéciales. Mais voilà, avant-dernier virage donc de cette saison. Messieurs, on fait le bilan de l'ère McCourt. C'était il y a 10 ans, son arrivée avec des projets plein la tête, je le disais, cette envie de très vite rivaliser avec l'ogre parisien. Finalement, on se rend compte que 10 ans après, c'est pas facile. C'est pas facile. Et surtout, il y a eu énormément d'entraîneurs, 12 en 10 ans, qui ont essayé de guider l'OM vers les sommets et vers un titre. Ils n'y sont pas arrivés. Messieurs, un mot sur McCourt, votre avis, votre bilan que vous faites, vous, de notre propriétaire américain à Marseille.
Non, moi, je trouve que le rôle de propriétaire, c'est un rôle particulier quand même à l'Olympique de Marseille. C'est quelqu'un qu'on voit assez peu, c'est quelqu'un qu'on a beaucoup décrit comme l'homme de l'ombre, quelqu'un qui agit un peu en coulisses, qui se montre pas forcément trop médiatiquement, qui se montre médiatiquement dans les grands moments, ouais. Dans les moments où il faut peser, dans les moments où il est important, où il est très important pour lui et pour l'institution qu'est l'Olympique de Marseille d'être représenté. Mais sinon, c'est vrai qu'on le voit peu et quelque part, alors certains pourraient regretter, moi je trouve pas, moi je trouve que c'est pas son rôle en fait d'être au premier plan. Je trouve que c'est pour ça qu'il a un président d'ailleurs. Je trouve que c'est, on a beaucoup vu d'ailleurs Pablo Longoria dans cette fonction là, dans cette fonction d'image Olympique de Marseille. C'est vrai que après le réduire à seulement investisseur d'argent entre guillemets, c'est vrai que c'est un peu.
On l'a vu cette saison parce que il est pas tout le temps là, il est dans l'ombre. Tu as raison. Mais on sent que c'est lui qui quand même prend les décisions et se renvoie de Longoria, on est la preuve.
Oui, mais du coup, c'est vrai que c'est ça, en fait. C'est, le truc, c'est qu'il prend des décisions, il pèse donc dans l'institution, sans être trop visible. Moi, je trouve que c'est une qualité. Moi, je trouve que c'est vraiment une vraie qualité. Je trouve qu'on n'a pas besoin d'un énième personnage médiatique. Je trouve que Pablo Longoria et Mehdi Benassian a très bien fait ça, peut-être on a même trop bien fait ça. Mais c'est vrai que, voilà, je trouve que sur ça, il n'y a rien à dire. Après, ses choix, après, peuvent peut-être amener à quelques réflexions. Moi, je trouve pas. Après, je trouve que le choix de Pablo Longoria, à un moment donné, il était logique et évident. Pablo Longoria a fait ce qu'il a fait dans la manière qu'il l'a fait, mais c'est voilà, ça regarde que Pablo Longoria, ça serait le bilan de Pablo Longoria. Mais moi, sur le bilan pour l'instant du propriétaire, il y a pas grand chose à redire. Tu t'as dit la somme avant, 700 millions d'euros injectés dans l'Olympique de Marseille depuis 2016. Bah quand même, c'est conséquent quand on sait qu'aujourd'hui qu'il y a que le Paris Saint-Germain et Monaco qui ont ça, parce que le propriétaire russe de Monaco s'est aussi mis pas mal d'argent dans le projet monégasque. Voilà, bah lui il a fait ça en fait, il a eu ce courage, voilà, de c'est à son crédit d'avoir eu ce courage-là de mettre autant d'argent, et surtout dans un championnat compliqué comme celui-ci.
Il aime bien rappeler que le groupe McCourt, c'est un groupe familial, c'est pas un fonds d'investissement, que c'est quelqu'un qui est très attaché à Marseille, au club. Ça, c'est pour toi aussi un atout pour lui ou pas vraiment? Il est un peu trop loin, cet Américain.
Je vais peut-être vous décevoir. Pour moi, c'est un propriétaire fantôme. C'est vrai qu'on le voit un peu plus depuis quelques temps, mais je pense qu'il a d'autres objectifs, c'est peut-être pour ça qu'il est là. À la base, quand il est venu, moi, l'action que je me pose, c'est est-ce qu'il est venu faire du business, de l'argent plutôt, que le projet sportif? Parce qu'il faut savoir...
Quand tu es propriétaire d'un club, aujourd'hui, le but, c'est de faire de l'argent.
Voilà, mais dans le foot, malheureusement, c'est pour ça que les propriétaires qui réussissent souvent, ce sont ceux qui sont passionnés, qui aiment vraiment ce sport. On a des exemples, au LAS, tout ça. Mais si on vient pour faire de l'argent, déjà, on va se casser les dents, déjà de 1. En plus, il n'est pas de ce milieu-là. Il a aucune attache avec le football, aucune attache avec Marseille. Pour moi, c'est... ouais. Là, je pense qu'il est...
Il connaît le monde du sport, quand même.
Ouais, il connaît le monde du sport, mais il a eu quand même...
Aux États-Unis, il est propriétaire d'une franchise.
Ah, mais d'une franchise, le sport américain, le sport européen, ça
n'a rien à voir. Parce que les franchises, c'est notre... On va pas en parler, mais c'est notre sujet. Mais pour moi, c'est un président fantôme. Qui, malheureusement, est un peu plus présent actuellement, mais je pense que peut-être pour une vente, peut-être pour chercher des capitaux, pour l'image aussi, parce qu'il faut redorer le blason dans ce milieu-là. Et maintenant, que tu parles des entraîneurs, il va falloir trouver une stabilité. C'est surtout ça qui manque à l'OM, et on le voit à travers ce que tu as dit, 12 entraîneurs en 10 ans, c'est énorme.
On va évidemment en parler de cette multitude d'entraîneurs qui a connu l'Olympique de Marseille et qui pourrait en connaître encore un à la rentrée prochaine, on verra. Mais c'est quand même son argent qui nous permet chaque année de passer l'écueil de la DNCG, parce qu'il met la main au portefeuille. 700 millions d'euros, c'est très important. Et son bilan, c'est 50% de podium avec lui. Voilà, pas de titre, évidemment, mais une année sur deux, en moyenne, on finit sur le podium de la Ligue 1. Est-ce que c'est lui qui est responsable de l'instabilité du club pour toi, aussi?
D'un côté, oui et non, parce que il a laissé... les pouvoirs, les pleins pouvoirs à un président, donc il y en a eu plusieurs, et je pense qu'il leur a fait confiance, et malheureusement, ça a pas été, pour moi, ça a été, ces 10 ans, ça a été un échec, même s'il y a eu des hauts et des bas, il n'y a pas de souci, mais quand on voit l'instabilité des entraîneurs, des présidents, il y a toujours quelque chose à dire sur l'OM, il y a toujours des couacs toute la saison. Cette saison, on l'a vu, ça a commencé avec une bagarre à Rennes, ça a commencé avec le changement d'entraîneur avec Deserbi qui part, il n'y a pas cette stabilité.
Il faudrait qu'il soit là tout le temps, tu penses, le propriétaire? Parce que tu dis que c'est un propriétaire fantôme, mais au Paris Saint-Germain, on ne les voit pas.
Il y a deux solutions, c'est soit, mais par contre, Nasser Al-Khelaifi, pour moi, il mouille le maillot, quoi, il mouille la chemise plutôt. Il est là, il est présent, c'est lui qui dirige, qui met le cap pour le PSG, c'est lui qui est intransigeant. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec ce qu'il fait, mais il avait un objectif, c'était la Ligue des Champions.
C'est pas lui propriétaire.
Voilà, c'est pas le propriétaire. Mais
par exemple, en Première Ligue, on ne connaît pas les...
Si, Tottenham, Daniel Levy, il est quand même très présent.
Tu connais quelques-uns.
Oui, mais c'est quelques-uns, c'est quelques modèles qui marchent. Après,
il faut bien s'entourer, c'est tout.
Voilà, c'est ça. Après, non, tous les modèles sont envisageables et sont possibles. Moi, je pense qu'à l'Olympique de Marseille, il vaut mieux qu'une personne ait les pleins pouvoirs et derrière dispatche forcément sur deux aspects particuliers comme le sportif, comme l'institutionnel. Voilà, des choses qui ne se relient pas ensemble, simplement. Je pense que c'est le bon modèle à l'Olympique de Marseille. C'est juste qu'aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas encore trouvé forcément les personnes adéquates pour ce modèle-là. Après, c'est un modèle économique, c'est un modèle d'entreprise comme dans n'importe quelle entreprise. Et c'est pour ça que je trouve que, encore une fois, je trouve que, pour parler de Stéphane Richard, parce que je pense qu'il faut en parler maintenant, à présent, vu qu'il va arriver dans sa prise de fonction, là, Stéphane Richard, c'est quand même quelqu'un qui a eu de l'expérience dans un autre modèle que le sportif. Mais justement, j'espère qu'il va être ce président détaché du sportif, parce que je pense que c'est là où Pablo Longoria, d'ailleurs, c'était peut-être un peu sur défaut, il est tellement maîtrise.
Il s'est amusé avec l'argent de McCourt un petit peu.
Ça, premièrement, et en plus, il est tellement maître de cet aspect sportif, il connaît tellement bien le sport, qu'un avis convergent avec Mehdi Benassia faisait tout capoter finalement. Donc je trouve que, un, en dehors du sportif, et un directeur sportif qui s'occupe exclusivement du sportif, qui choisit son entraîneur, qui, alors cet entraîneur-là, choisit sa philosophie de jeu, voilà, là après on ne pourra plus rien dire. Après, ce sera de la faute comptablement du sportif, et pas du président, ni du propriétaire.
Bon, mais c'est vrai que Stéphane Richard est plus profil gestionnaire, bon père de famille, du club, des finances, et il laissera le sportif à quelqu'un de compétent. Il a acheté 45 millions d'euros, cet Olympique de Marseille, Franck McCourt, en 2016. Aujourd'hui, lui, il dit que le club est estimé à 1,2 milliard d'euros. Les économistes, les financiers, placent plutôt le club entre 500 et 600 millions d'euros. Parce que, en ce moment, la Ligue 1, ça rayonne pas forcément, hein, ne serait-ce que en matière de droit, de retransmission, et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'énergie sur le marché en France et en Ligue 1. Mais c'est quand même une très, très nette augmentation de la valeur du club.
Donc c'est bien ce que je disais, oui. Il est venu faire du business.
Ah, oui,
et comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il parle de cette somme, qui, déjà, il estime le club, c'est qu'il travaille dessus. Et je pense que c'est pour ça qu'il est un peu plus présent. Je pense qu'il veut récupérer son argent et partir. Bon, tant mieux. Mais par contre, il ne faut pas faire l'erreur de prendre quelqu'un qui vient pour s'amuser. Ou il faut quelqu'un qui soit passionné, quelqu'un qui connaisse ce sport et qui s'entoure de personnes compétentes. Surtout pour le côté sportif et le côté financier. Comme tu as dit, Camille, il n'y a pas de souci. Faire une divergence entre les deux. Et ensuite, surtout, c'est la stabilité. Mettre un projet en place et le laisser quand même, pas sur 6 mois, pas sur 3 mois. Même si la première saison est chaotique, mais c'est pas, il faut continuer avec le même groupe, le même staff, et voir ce que ça donne sur plusieurs années. Je donne souvent cet exemple, c'est Arteta à Arsenal.
Bien sûr, oui.
Il n'a pas été champion du jour au lendemain. Il a mis plusieurs années. Là, il a été champion d'Angleterre pour cette saison. Il est en finale des Ligues des Champions. Mais ça fait quand même quelques années qu'il monte en puissance. On lui a laissé les pouvoirs. Il s'est mis à l'aise à Arsenal. Il a imposé sa patte. Et c'est ce qu'il faut à l'OM, c'est ce qui manque.
Ah mais tu vois, moi, je compare à un truc. 2016, quand il prend le club, Franck McCourt, il y a déjà eu un petit boom en Première Ligue à ce moment-là. On sentait que le foot européen, ça intéressait beaucoup le monde entier. Il y avait l'émulation de la Coupe du Monde 2 ans par avant. On sentait quelque chose, on sentait qu'il allait se passer quelque chose, économico-sportivement parlant. C'est juste que aujourd'hui, franchement, en connaissant nous trois, en connaissant le sport, et les téléspectateurs aussi qui connaissent le sport évidemment, je ne sais pas si je sens, moi personnellement, qu'il va y avoir un nouveau boom du football européen, en tout cas, et du football, surtout du football français. Je n'ai pas l'impression qu'on est dans une hype très. Dans 4 ans, vous allez voir, les droits télé vos français vont exploser. Donc pour moi, en fait, je rejoins sur la valeur de l'Olympique de Marseille. Bien sûr que l'OM a connu ce boom-là aussi, parce qu'il y a à la fois les droits télé qui ont explosé, à la fois les infrastructures de l'OM qui sont développées, il y a beaucoup de points sur lesquels l'OM a aujourd'hui de réels atouts. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis investisseur / potentiel futur propriétaire de l'Olympique de Marseille. Moi, je ne sais pas si j'investis réellement sur l'Olympique de Marseille, parce qu'en pensant à L+3, L+4, voilà, sur du moyen, voire long terme, je ne sais pas si ça vaut le coup aujourd'hui d'avoir un club comme l'Olympique de Marseille. C'est la question que je me pose.
Bon, après, tu vois, généralement, les franchises, les équipes, les clubs prennent quand même de la valeur d'année en année. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on se pose parce que les droits sont... Il y a un net déclin sur la répartition des droits TV, en France notamment, contrairement à ce que ça peut être en Angleterre. Ouais. Mais si on va marquer une pause, parce qu'on arrive à la fin de cette première partie. Deuxième partie, la valse des entraîneurs, c'est promis, avec vos tops et vos flops, les entraîneurs que vous avez préférés sous l'ère McCourt et ceux que vous avez le moins aimés. Messieurs, à tout de suite.
Virage Marseille avec Oco, une filtration fiable pour votre eau.
Sur tous les terrains de la vie, soyez protégés. Virage Marseille avec Mutuelle du Soleil, santé, prévoyance, auto, habitation.
Deuxième partie de Virage Marseille ce soir avec Ossine et Camille, nos invités, avant-dernier virage de l'année. Et on s'intéresse à l'ère McCourt. On fait le bilan parce que le propriétaire de l'Olympique de Marseille est désormais présent maintenant depuis 10 ans ici à Marseille. Et pendant 10 ans, 12 entraîneurs se sont succédés sur le banc de l'Olympique de Marseille. C'est énorme, hein. Vous aurez compris, c'est plus d'entraîneurs, enfin c'est aucun entraîneur a réussi à rester plus de 2 ans. Regardez, Rudy Garcia, Villas-Boas, Nasser Largué, Jorge Sampaoli, Igor Tudor, Marcelino, ça c'est de 2016 à 2023. Et puis après, Jacques Abbandonado, bien sûr, Gennaro Gattuso, Jean-Louis Gasset, Roberto De Zerbi, Abbandonado une nouvelle fois et Habib Bey. Donc 12 entraîneurs en 10 ans, dont 3 intérims. Ça fait énorme. C'est une instabilité qu'on a dénoncée en première partie de Virage Marseille, messieurs. Pourtant, il y avait quand même des coachs qui auraient pu réussir, qui avaient le niveau, l'aura pour réussir à Marseille. Mais pourquoi, à votre avis, aucun d'eux n'a réussi sous l'ère Macourte?
Parce que je pense qu'on est à l'OM, on est impatient. Les Marseillais sont impatients. Il faut du résultat cash. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et dans tous ces entraîneurs, pour moi, le top du top, c'était Roberto De Zerbi. Quand on voit en termes de stats, je crois qu'il a 57% de victoire. Moi, c'est un regret qu'il soit parti. Et après, le flop, le
Attends, tu es en train Bon, allez, on enchaîne donc. Ton top, toi, c'était Roberto De Zerbi. Ouais, De Zerbi, bien sûr.
Et après, comme tu dis, ça marque une instabilité. 12 entraîneurs en 10 ans. Et c'est là où il y a un hic à l'OM et où il va falloir changer cette politique. Quand on voit les grands clubs, les entraîneurs restent minimum 3 ans, 4 ans. C'est un projet sur du long terme. Et nous, malheureusement, c'est des projets à court terme. À chaque fois, c'est pratiquement une saison, voire la moitié d'une saison ou une saison et demie. On peut pas avoir ce visu sur le futur et avoir un projet sur du long terme. C'est ça qui est dommage.
Parce qu'à chaque fois, il faut tout reconstruire et du coup, tu perds du temps. Et tu perds...
Bah, tu vois, ce qui m'inquiète, juste sur un mot sur De Zerbi, si tu me permets, l'exigence des Marseillais, moi, je pense que c'est ça finalement le plus gros problème aujourd'hui. D'abord, il y a cette attente. Ça, c'est la première phase. Il y a cette attente où tu dis, nouveau coach, tu dois faire ses preuves, première saison. De Zerbi, sa première saison, elle est très bonne.
Voilà.
Et ça correspond au projet de la tête des supporters marseillais. Le problème, c'est qu'ils sont tellement exigeants que la saison numéro 2, faut absolument qu'il soit champion. À minima. Faut absolument que l'OM soit champion. Ou à minima deuxième. Au moins faire dans la continuité de la saison de la première saison. Sauf qu'une fois que tu n'es pas dans ce registre-là, pour eux, les supporters, c'est une déception. Et cette déception, elle se traduit en colère. Et vraiment, je vous dis très sincèrement, j'ai jamais vu ça dans aucun autre club de France. Franchement, pour avoir vu, suivi deux, trois situations, notamment dans des clubs similaires, hein, je parle pas du FCB, je parle pas de clubs de plus petits clubs comme ça, je parle des clubs à l'échelle OM en Ligue 1, j'ai jamais vu ça. Mais du coup, c'est là aussi le problème, c'est là aussi finalement le problème, quand vous savez, ce supporterisme qui est de base de facto et de base positif, hein, c'est incroyable. Voilà, c'est l'identité du club. Mais quand ça arrive à un point où tu as la capacité aujourd'hui d'être le juge d'un coach, de l'avenir d'un coach, ben moi je trouve que c'est là que ça devient problématique. Et dans l'avenir de l'OM, je suis assez pessimiste dessus. Voilà.
Bon alors, on continue avec toi aussi. Ton top, Roberto De Zerbi. Ton flop sur ces 12 entraîneurs en 10 ans?
Il y en a deux, Gattuso et Marcelino. C'est vraiment, ça a été waouh.
Alors, t'as choisi quand même Gattuso.
Gattuso, ouais, Gattuso. Parce que pour moi, c'est une erreur de casting. Il a commencé à entraîner plusieurs équipes auparavant. Il n'est jamais resté sur du long terme. Donc déjà, ça marque qu'il n'est pas au top. Il était à Naples juste avant, je pense. Il a été licencié de Naples.
Il n'a pas réussi à qualifier la squadra.
La squadra Azzurra, j'allais en venir. Pour moi, c'est une erreur de casting. Et je pense qu'il devrait se recycler sur un autre métier, parce qu'entraîneur, ce n'est pas fait pour lui. Et après, il y a Marcelino. Marcelino, je pense que c'est vraiment ce qu'on est en train de dire. C'est le fruit de ce club. C'était l'impatience des supporters, des dirigeants. Et je pense qu'il n'avait pas le caractère pour ce club. Mais je pense que c'était un bon entraîneur, parce qu'on voit ce qu'il fait quand même en Espagne.
Il a pris le Real. Deux fois d'affilée le voilà. Villarreal en Ligue 1, ce qui n'avait jamais été le cas pour le club.
Et c'est pour ça que quand on recrute à l'OM, et il y a des caractéristiques à tenir compte du personnage. Quand je parle du personnage, c'est de l'homme, autant bien chez le joueur que chez l'entraîneur. Il faut qu'il ait ses caractéristiques.
Donc, à supporter la pression. Ça, parce que, Gattuso est censé être OM compatible.
Là, on touche à quelque chose d'important. Depuis 3 saisons, j'ai l'impression qu'on n'arrête pas de dire il faut un extravagant, faut un passionné, faut un fada. J'ai tout entendu, hein. Franchement, en 3 ans, j'ai tout entendu. Mais je sais pas s'il faut ça. Moi, je pense qu'il faut un calme. Moi, je suis persuadé qu'il faut quelqu'un de calme, mais quelqu'un qui est aussi psychologiquement résiste à cette pression-là, ce qui est pas évident. Et là, d'un coup, sur le casting, ça devient très compliqué.
Ce banc marseillais est très très dur. Hein.
C'est... on le voit là. Benassia, il a fait une interview là récemment. Et la question, c'était si on te propose un poste, quoi. Là, et sa réponse a été non. Là, je veux me reposer. C'est pesant, je crois, psychologiquement. C'est pour ça que quand on signe à l'OM, il faut pas voir que le chèque, le contrat. Il faut voir ce que ça comporte, et le contexte de l'environnement de l'Olympique de Marseille. Mmh. Et je pense qu'il y en a qui le sous-estiment énormément.
Allez, les tops et les flops de Camille. Maintenant, Camille, ton top.
Bon, mon top, c'est Villas-Boas. André Villas-Boas.
Ça revient souvent.
Bah, moi, déjà, c'est un coach que j'adore personnellement. Je trouve que moi, c'est un coach avec qui j'ai grandi. Et moi, je suis fan de la psychologie de cet homme-là, du stratège qu'il était aussi, de l'homme de vestiaire aussi qu'il a été. Parce que moi, j'ai eu la chance cette année de faire un bel entretien avec Bouna Sarr. Et c'est ce que Bouna Sarr m'a dit, surtout. Sa première phrase qu'il m'a dit quand on parlait d'un coach, il m'a dit, moi, ce que je retiens absolument à l'OM, c'est Villas-Boas. C'est lui qui m'a transformé, voilà, je reprends ces mots, hein, de Bouddha. Mais voilà, après, voilà, moi je trouve que c'était un super coach, je trouve qu'il a fait le taf. Bon, on peut pas lui reprocher grand chose à part la fin qui a été, voilà, bon, la fin c'est un épisode un peu chaotique, mais même lui, je sais qu'il l'a vécu personnellement.
Peut-être un peu trop parfait pour l'Olympique de Marseille.
Peut-être. Mais en tout cas, c'est un profil comme ça que j'aimerais peut-être à l'avenir de nouveau que l'on teste. Ça ou vraiment quelqu'un d'encore plus calme, parce que, alors, attention, Villas-Boas aussi, hein, il a l'air comme ça de prime abord très calme, mais de l'intérieur ça bouillonne aussi. C'est ça aussi qui faisait que d'ailleurs son charme aussi. Mais
des belles voilà, stats quand même. Hein,
mais des belles stats. Un jeu propre, c'était pas flamboyant, c'est pas drôle, c'est pas du De Zerbi ball, c'est pas Sampaoli, c'est pas Bielsa, mais c'était quand même un jeu constructif, un jeu avec de la technicité. Donc voilà, moi c'est mon coach préféré en tout cas de cette ère McCourt.
Alors ton flop maintenant.
Bah mon flop, alors j'ai très honnêtement, j'ai hésité entre Gattuso, parce que là, je te rejoins. Mais moi, c'est quand même Habib Bey, je trouve. C'est triste à dire, parce que là, c'est en plus très récent. Ça fait très mal encore de le dire. Mais en plus, surtout qu'il est encore coach. Mais j'ai pas peur de le dire, parce que c'est vraiment ce que je pense. Il y a quelque chose qui va pas. J'admire le communicant Habib Bey. Parce que
tu aimes l'homme de discours, tu aimes...
Ouais, je trouve que ses avis sont fondés. Il y a quelque chose de vrai. Mais malheureusement, je trouve que la parole ne s'est pas transformée en acte, finalement. Et ça n'a pas pris pour l'instant.
C'est ce qu'on lui a beaucoup reproché cette année.
Hein. Oui, après, ça n'a pas pris parce que peut-être que. Alors, encore une fois, cette question de temps, finalement, est-ce que. C'est la question en ce moment qui brûle les lèvres à tout le monde. C'est est-ce qu'on devrait lui laisser encore une saison pour prouver s'il a vraiment les épaules pour diriger un club de Ligue 1 et surtout un club comme celui de l'Olympique de Marseille. Parce que tant un club de Ligue 1, ça me dérange. Ça serait pas dérangeant de le voir dans un autre club, mais c'est surtout l'environnement OM. Est-ce qu'il a la capacité à la fois mentale et psychologique de diriger un club comme l'Olympique, de s'occuper d'une équipe comme l'Olympique de Marseille, j'en doute. Parce que même dans la philosophie de jeu, même s'il a une philosophie très à lui, je trouve que la philosophie est très compliquée. Je pense que pour un joueur, c'est peut-être pas facile forcément à assimiler. Surtout dans cette saison, parce que quand tu débarques en février, va expliquer dans ta philosophie de jeu hyper compliquée à des joueurs qui sont blasés d'une première partie de saison où tu as été très... très mitigé, voilà, je sais pas, voilà, pour moi c'est pas l'homme qu'il faut en tout cas là, pour le début de saison prochaine. Je pense qu'il faut repartir sur quelque chose de neuf avec un coach, avec un autre profil, mais voilà, c'est ce que je résumerai sur Habib Bey. Voilà.
Justement, on a deux profils peut-être qui pourraient coller à ce que tu dis, plus ou moins on va dire, et deux noms qui reviennent, hein, pour Christophe Galtier, bien sûr, et Bruno Genesio. Alors, Christophe Galtier a été libéré par le club de Neom en Arabie Saoudite. Bruno Genesio cherche absolument à se libérer de son contrat avec Lille. Il ne veut plus entraîner dans le Nord. Ce sont deux hommes au tempérament plutôt calme, avec peut-être un peu plus de poigne pour Galtier, hein, que pour Genesio. Est-ce que le retour du minot Christophe Galtier à l'Olympique de Marseille serait une bonne idée pour vous?
Moi, j'envisageais Christophe Galtier pour la saison prochaine. Je pense que c'est le coach idéal pour l'année prochaine. Et par contre, lui laisser le temps de s'installer, d'imposer sa patte. Et je disais récemment dans une émission, on a un ami en commun, je ne dirais pas son nom, il m'a dit qu'il voulait finir sa carrière d'entraîneur à l'Olympique de Marseille. Et l'expression que Jimmy Coe a dit, je confirme, il a dit la même expression, ça le ferait bip d'entraîner l'Olympique de Marseille. Donc pourquoi pas, il est motivé.
Trois fois meilleur entraîneur de Ligue 1.
Voilà, il connaît le club et... Et
donc ça veut dire qu'il sur la longévité là.
Voilà, et là tout qu'il a, c'est que Il a entraîné Saint-Etienne, ça a marché. Il a entraîné Lille, ça a marché. Même à Paris, quand même, il connaît le championnat. Il s'est imposé dans plusieurs clubs de Ligue 1. Honnêtement, il connaît l'environnement. S'il s'encadre bien, si on le laisse le temps, je pense que ça pourrait le faire.
Si on lui pardonne aussi ses propos extra-sportifs aussi, qui ont beaucoup posé. Camille, un mot rapide parce qu'on arrive à la fin sur Galtier, mais et aussi sur Genesio.
Moi, ce qui me fait rire avec Galtier, c'est que depuis que je suis arrivé, ça fait 4 ans que je suis à la Marseillaise, tous les étés de la Marseillaise que j'ai effectué avec eux, à chaque fois il y a eu la rumeur Galtier, à chaque fois ça s'est jamais fait, donc j'y crois pas encore une fois. C'est voilà, j'irai juste ça comme ça. Je sais pas si c'est vraiment forcément le bon coach encore une fois sur le profil, ni Genesio non plus. Alors Genesio, on a eu Alexis Romero en entretien et c'est lui qui nous a dit qu'il aimerait beaucoup voir Bruno Genesio à l'Olympique de Marseille. Moi, si vous me demandez aujourd'hui, moi, ce que je voudrais, je l'ai dit il y a plusieurs mois sur ce plateau, c'est moi, il y a deux profils. C'est soit Gabriel Heinze, voilà, soit Laurent Blanc. Voilà. C'est un des deux. Moi, c'est mes deux coups de cœur, mes deux préférences pour l'OM.
Heinze, c'est l'entraîneur adjoint d'Arteta à Arsenal. Ça, quand même, on voit de la patte. Hein, ça pourrait être bien de récupérer aussi la philosophie Arteta. Et je suis d'accord, Laurent Blanc serait parfait à ce poste en tant que calme et autoritaire et avec, même s'il est très connoté Paris Saint-Germain. Messieurs, merci beaucoup pour cette émission. Merci de nous avoir suivis. Émission à retrouver en podcast. C'est un plaisir de vous avoir, messieurs. Belle soirée à vous. Belle fin d'été. Et on se retrouve à la rentrée. On compte sur vous.
Avec plaisir.
Votre expertise, messieurs. Belle soirée à vous.
C'était Virage Marseille avec Coco, une filtration fiable pour votre eau.